Avez-vous entendu déjà ce nom, Aimé Césaire ? Ça vous dit quelque chose ? Avez-vous déjà lu Aimé Césaire ? Qui a lu quelque chose d'Aimé Césaire ?
Vous êtes censé être un tout petit peu plus nombreux.
Qu'est-ce que vous avez lu de... Qu'est-ce que vous avez lu d'Aimé Césaire ? Qu'est-ce que vous connaissez de lui ? Oui ?
C'est pas une lettre poétique. C'était pas une lettre poétique, mais c'était un discours, son discours sur la nourriture de Miami.
D'accord. Dans les années 60. Effectivement, Aimé Césaire est un poète, homme politique également, martiniquais, de la Martinique, donc au sud de la Guadeloupe. Vous voulez pas nous asseoir parce que là, vous avez... Non, pour vous, ce sera plus confortable. Aimé Césaire, donc, est un poète, homme politique, qui a été maire de la ville de Fort-de-France, la capitale, le chef-lieu de la Martinique, de 1946 jusqu'à ce qu'il arrête de se présenter aux élections. Il a été systématiquement réélu maire de cette ville et député de la Guadeloupe.
De la Martinique.
Jeune homme, avec ses comparses, il était étudiant à Paris, il fait la rencontre d'un certain Léopold Sédar Senghor. Ça vous dit quelque chose ? Ok. Donc, ils sont à Paris et on est dans les années 50. C'est un jeune homme, il est un peu plus âgé que vous. Il a l'âge de votre grand frère, grande sœur. Il a 24 ans. Très, très grand frère, parents, oncles, tantes. Il est étudiant, il arrive à Paris pour la première fois, il a quitté la Martinique, où il a réussi son baccalauréat, et il va rencontrer à Paris Léopold Sédar Senghor. Ils vont devenir amis. C'est une époque où être noir à Paris est une expérience, on va dire, particulière, difficile. On est à une époque où il y a encore ce qu'on appelait, où l'empire colonial français est important. Et donc, les grands empires coloniaux, pas seulement français, européens, organisent par exemple des expositions coloniales où l'on montre sa puissance coloniale. Quand il arrive à Paris, Aimé Césaire, en 1936, c'est tenu une grande exposition où l'on montre, on exhibe, on montre aux Européens des peuples venus du Togo, du Sénégal, et du monde entier. Donc, et ils sont révoltés par cette relation déséquilibrée, par cette relation qui dénie aux peuples noirs dans le monde, africains et caribéens, le droit à la culture. On pense à cette époque-là qu'il n'y a pas d'histoire avant l'Europe, qu'il n'y a pas de culture avant la culture européenne. Et ils vont, avec Léopold Sédar Senghor, commencer à travailler à la réhabilitation des peuples noirs, de l'image du noir, de l'estime que l'on peut avoir de soi-même lorsque l'on est noir. Ils vont travailler à cela. Ils vont créer un mouvement qui s'appelle la négritude. La négritude qui est cette manière de se penser lorsque l'on est noir, de voir ce qu'il y a en commun entre des peuples de la Caraïbe, des peuples d'Afrique, des peuples d'Amérique, des peuples noirs vivant en Europe. Finalement, quels sont les liens? Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui nous rend proches? Qu'est-ce qui nous différencie les uns des autres? Qu'est-ce qui fait que nous sommes particuliers, spécifiques mais que nous appartenons à une même famille. Ils vont donc inventer ce concept, le concept de la négritude. Césaire et Senghor sont des poètes. Alors ils vont avoir chacun un destin politique. Hein. Senghor, vous le savez, au Sénégal, premier président du Sénégal. Il va le rester lui aussi de nombreuses années jusqu'à ce qu'il se retire. Aimé Césaire également. Il y a un troisième larron hein, qui s'appelle Léon Gontran Damas, qui est un Guyanais. La Guyane se trouve au nord-est du Brésil, sur le continent sud-américain. C'est les trois mousquetaires de la négritude, avec un quatrième comparse qui est Guy Tyrolien, un Guadeloupéen. Mais le noyau dur, celui fondateur, ce sont ces trois-là, Senghor, Césaire, Damas. Césaire, spécifiquement, est un poète, un jeune homme, qui écrit de la poésie depuis toujours. Et puis, il va avoir comme une crise lorsqu'il va comprendre que la poésie qu'il écrivait était finalement ne lui appartenait pas, qu'elle était très calquée sur les canons européens, anciens, classiques. Et il va, en arrivant à Paris, il y a un mouvement intellectuel qui existe et qui va le libérer, qui est le surréalisme, une autre manière de penser la langue, une autre manière de penser l'esprit, une autre manière de penser la relation entre l'esprit, les images, la langue, le verbe, la musique de la langue et le sens des mots. Et il va trouver là une manière qui va lui correspondre absolument pour écrire sa poésie. Il va donc détruire tout ce qu'il aurait écrit jusque-là. Il va jeter. Et puis, il est étudiant à Paris, à la Cité universitaire. Un de ses amis croates, lui dit « Qu'est-ce que tu fais cet été ?»« Ben, je fais rien, je suis là. »« Ben, écoute, viens chez moi en Croatie, je pars dans ma famille en vacances. » Si tu veux, tu viens. Donc, le voilà parti en Croatie, dans un tout petit village dont le nom est... Le nom vient de m'échapper. Bon, dans un tout petit village, il arrive, où ils n'ont pas vu beaucoup de noirs, hein, en Croatie. Et on est avant la guerre, hein, on est en 1938, 37-38. Il arrive, il y a un lac, un étang, et puis au milieu de ce lac, il y a une petite île. Et Aimé Césaire demande à son copain, mais elle a un nom, cette île? Et il lui dit, oui, elle s'appelle Martininska. Pardon? Elle s'appelle Martininska, elle s'appelle Martinique, elle porte le nom de mon île. Tu veux dire que j'ai fait tout ce chemin pour revenir à mon pays natal? Et il va avoir comme ça une crise fulgurante. Il va aller dans une petite boutique, il va acheter un cahier. Et il va commencer à écrire le cahier d'un retour au pays natal, qui va être son premier poème. Un poème fulgurant. Un poème dans lequel il va mettre tout ce qu'il va développer ensuite comme thème et comme thématique. Le cahier d'Arthur au pays natal est donc un poème de l'exil, mais aussi un poème du rapprochement et de l'éloignement. Vous voyez cette tension qu'il y a entre le titre et la réalité historique qu'il a vu naître. C'est loin de chez lui, mais près de chez lui, loin de lui-même, mais proche de lui-même, qu'il va trouver l'inspiration et le chemin de sa propre humanité, de sa propre esthétique, qu'il va développer tout le reste de son existence de poète. Et c'est ce poème-là que je vais vous dire, en partie, là, ce matin, parce que c'est un... Et puis ensuite, on en parlera, on en discutera, si vous voulez, et si vous êtes d'accord. On y va ? au bout du petit matin. Va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t'en. Je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance. Va-t'en ! Mauvais gris-gris, punaise de moignillon. Puis, je me tournais vers des paradis pour lui et les siens perdus. Et là, bercé par les effluves d'une pensée jamais lasse, je nourrissais le vent, je délassais les monstres et j'entendais monter de l'autre côté du désastre un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane que je porte toujours dans mes profondeurs. À hauteur inverse du 20e étage des maisons les plus insolentes et, par précaution, contre la force putréfiante des ambiances crépusculaires arpentées nuit et jour d'un sacré soleil vénérien. Au bout du petit matin, bourgeonnant, dense, frêle, les Antilles, qui enfin, les Antilles, grêlé de petites véroles, les Antilles, dynamité d'alcool, échoué dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville, sinistrement échoué. Au bout du petit matin, l'extrême, trompeuse, désolée, escar sur la blessure des eaux. Les martyrs qui ne témoignent pas. Les fleurs du sang qui se fanent et s'éparpillent dans le vent inutile comme des cris de perroquets babillards. Une vieille vie menteusement souriante. Au bout du petit matin, sur cette plus fragile épaisseur de terre que dépasse de façon humiliante son grandiose avenir, la plage des songes. Et l'insensé réveille. Au bout du petit matin, cette ville, plate, étalée, trébuchée de son bon sens, inerte, essoufflée sous son fardeau géométrique de croix, éternellement recommençante, indocile à son sort, muette, contrariée de toute façon, incapable de croître selon le suc de cette terre, en rupture de faune et de flore. Au bout du petit matin, cette ville plate, étalée. Et dans cette ville inerte, cette étrange foule qui ne s'entasse pas, ne se mêle pas, habile à découvrir le point de désencastration, de fuite, d'esquive, cette foule qui ne sait pas faire foule. Cette foule, on s'en rend compte, si parfaitement seule sous ce soleil, à la façon dont une femme, toute, on eût cru, à sa cadence lyrique, interpelle brusquement une pluie hypothétique et lui intime l'ordre de ne pas tomber. Ou un signe rapide de croix sans mobile visible. Ou à l'animalité subitement grave d'une paysanne urinant debout, les jambes écartées, roide. Dans cette ville inerte, cette foule désolée sous le soleil, ne participant à rien de ce qui s'exprime, s'affirme, se libère au grand jour de cette terre sienne, ni à l'impératrice Joséphine des Français rêvant très haut au-dessus de la négraille, ni au libérateur, figé dans sa libération de pierre blanchie, ni au conquistador, ni à ce mépris, ni à cette liberté, ni à cette audace. Au bout du petit matin, cette ville inerte et ses au-delà de l'être, de consomption, de famine, de peur tapis dans les ravins, de peur juchée dans les arbres, de peur creusée dans le sol, de peurs en dérive dans le ciel, de peurs amoncelées. Et ces fumerolles d'angoisse. Et cette joie ancienne, m'apportant la connaissance de ma présente misère, une route bossuée qui pique une tête dans un creux où elle éparpille quelques cases, une route infatigable qui charge à fond de train un morne en haut duquel elle s'enlise brutalement dans une mare de maisons pataudes, une route follement montante, témérairement descendante, et la carcasse de bois, comiquement juchée sur de minuscules pattes de ciment que j'appelle notre maison, sa coiffure de tôle ondulant au soleil comme une peau qui sèche, la salle à manger, le plancher grossier où luisent des têtes de clous, les solives de sapin et d'ombre qui courent au plafond, les chaises de paille fantomales, la lumière grise de la lampe et celle vernissée et rapide des cancrelats qui bourdonnent à faire mal. Et le temps passait, vite, très vite, passé, août, où les manguiers pavoisent de toutes leurs lunules, septembre l'accoucheur de cyclones, octobre le flambeur de cannes, novembre qui ronronne aux distilleries. C'était Noël qui commençait. Il s'était annoncé Noël par un picotement de désir, une soif de tendresse neuve, un bourgeonnement de rêves imprécis, puis il s'était envolé tout à coup dans le froufrou violet de ses grandes ailes de joie, et alors c'était parmi le bourg sa vertigineuse retombée qui éclatait la vie des cases comme une grenade trop mûre. Noël n'était pas comme toutes les fêtes. Il n'aimait pas à courir les rues, à danser sur les places publiques, à s'installer sur les chevaux de bois, à profiter de la cohue pour pincer les femmes, à lancer des feux d'artifice au front des tamariniers. Il avait l'agoraphobie, Noël. Ce qu'il lui fallait, c'était toute une journée d'affairement, d'après, de cuisinage, de nettoyage, d'inquiétude, de peur que ça ne suffise pas, de peur que ça ne manque, de peur qu'on ne s'embête. Puis le soir, une petite église, pas intimidante, qui se laissait emplir bienveillamment par les rires, les chuchotis, les confidences, les déclarations amoureuses, les médisances et la cacophonie gutturale d'un chantre bien d'attaque, et aussi de gais copains et de franches luronnes et des cases aux entrailles riches en succulences et pas regardantes. Et l'on s'y parque une vingtaine. Et la rue est déserte. Et le bourg n'est plus qu'un bouquet de champs. Et on est bien à l'intérieur. Et on en mange du bon. Et on en boit du réjouissant. Et il y a du boudin. Celui étroit de deux doigts qui s'enroule en volubile. Celui large et trapu, le bénin à un goût de serpolet, le violent à incandescence pimentée, et du café brûlant, et de l'anis sucré, et du punch au lait, et le soleil liquide des rhums, et toutes sortes de bonnes choses qui vous imposent autoritairement les muqueuses ou vous les distillent en ravissement, ou vous les tissent de fragrance, et l'on boit, et l'on chante, et les refrains fusent à perte de vue comme des cocotiers. Alléluia! Et ce sont pas seulement les bouches qui chantent, mais les mains, mais les cocos, et les cocos, et les pieds, et les fesses. Et rythme, et l'écho, et l'écho, et l'écho. arrivé au sommet de son ascension, la joie crève comme un nuage. Les chants ne s'arrêtent pas, mais ils roulent maintenant inquiets et lourds par les vallées de la peur, les tunnels de l'angoisse et les feux de l'enfer. Et chacun se met à tirer par la queue le diable le plus proche, jusqu'à ce que la peur s'abolisse insensiblement dans les fines sablures du rêve. Et l'on vit comme dans un rêve, véritablement. Et l'on boit. Et l'on crie. Et l'on chante comme dans un rêve. Et l'on somnole aussi comme dans un rêve. Avec des paupières en pétales de rose. Et le jour vient, velouté comme une sapotille. Et l'odeur de purin des cacaoyers. Et les dindons qui égrènent leurs pustules rouges au soleil. Et l'obsession des cloches, et la pluie des cloches, la pluie qui teinte, teinte, teinte. Au bout du petit matin, cette ville plate, étalée. Au bout du petit matin, une autre petite maison qui sent très mauvais dans une rue très étroite. Une maison minuscule qui abrite en ses entrailles de bois pourri des dizaines de rats et la turbulence de mes 6 frères et sœurs. Une petite maison cruelle dont l'intransigeance affole nos fins de mois et mon père. Fantasque, grignoté d'une seule misère, je n'ai jamais su laquelle. Qu'une imprévisible sorcellerie assoupie en mélancolique tendresse ou exalte en haute flamme de colère. Et ma mère, dont les jambes, pour notre fin inlassable, pédalent, pédalent de jour, de nuit. Je suis même réveillé la nuit par ces jambes inlassables qui pédalent la nuit. Et la morsure âpre dans la chair molle de la nuit d'une singère. Que ma mère pédale, pédale pour notre faim, et de jour, et de nuit. Et le lit de planche, d'où s'est levée ma race. Tout entière, ma race, de ce lit de planche, avec ses pattes de caisse de kérosine, comme s'il avait l'éléphantiasis, le lit, et sa peau de cabri, et ses feuilles de bananes séchées, et ses haillons. Une nostalgie de matelas, le lit de ma grand-mère. Au-dessus du lit, dans un pot plein d'huile, un lumignon dont la flamme danse comme un gros ravet. Sur le pot, en lettres d'or, merci. Au bout du petit matin, le vent de jadis qui s'élève des fidélités trahies. Du devoir incertain, et cet autre petit matin d'Europe. Partir! Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cacre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas, l'homme famine. L'homme insulte, l'homme torture, on pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement, le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendicant. Je retrouverai le soleil des grandes communications et des grandes combustions, je dirai orage. Je dirais fleuve, je dirais tornade, je dirais feuille, je dirais arbre, je serai mouillé de toutes les pluies, je serai humecté de toutes les rosées, je roulerai
comme du sang frénétique, sur le courant lent de l'œil, des mots en chevaux fous, en enfants frais, en caillots, en couvre-feu, en vestiges de temples, en pierres précieuses, assez loin pour décourager les mineurs. Qui ne me comprendrait pas, ne comprendrait pas davantage le rugissement du tigre? Et vous, fantômes, montée bleue de chimie, j'aurais des mots assez vastes pour vous contenir. Et toi, terre tendue, terre saoule, terre grand sexe levé vers le soleil, terre, grand délire de la mentule de Dieu, il me suffirait d'une gorgée de ton lait gicouli pour qu'en toi je découvre, toujours à même distance de mirage, la terre où tout est libre et fraternel, ma terre. Partir. Mon cœur bruissait de générosité en fatigue. Partir! J'arriverai, lisse et jeune, dans ce pays mien. Et je dirai à ce pays dont le limon entre dans la composition de ma chair. J'ai longtemps erré et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Je viendrai à ce pays mien, je lui dirai « Embrassez-moi, sans crainte. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. » Je lui dirai encore « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Et venant, je me dirai à moi-même et surtout mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras dans l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Car une mère de douleur n'est pas un proscénium. Car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Et voici que je suis venu. De nouveau, cette vie clopinante devant moi. Non, pas cette vie. Cette mort, sans sens, ni piété. Encore une objection, une seule, mais de grâce, une seule. Je n'ai pas le droit de... Je n'ai pas le droit de calculer la vie à mon empan fuligineux, de me réduire à ce petit rien ellipsoïdal qui tremble à quatre doigts au-dessus de la ligne, que je me comprenne entre latitude et longitude. Ton dernier triomphe, corbeau tenace de la trahison. Ce qui est à moi, c'est quelques milliers de mortiférés qui tournent en rond dans la calebasse du Nil. Et ce qui est à moi aussi, l'archipel, arqué comme le désir, inquiet de se nier, on dirait une anxiété maternelle pour protéger la ténuité plus délicate qui sépare l'une de l'autre Amérique. Et ses flancs qui secrète pour l'Europe la bonne liqueur d'un Gulf Stream, et l'un des deux versants d'incandescence entre quoi l'équateur funambule vers l'Afrique. Et mon île, non clôture, sa claire audace debout à l'arrière de cette Polynésie, devant elle, la Guadeloupe, fondue en deux de sa raie dorsale et de même misère que nous, Haïti, où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait en son humanité. Et la comique petite queue de la Floride, où d'un nègre s'achève la strangulation. Et l'Afrique, gigantesquement chenillant jusqu'aux pieds hispaniques de l'Europe, sa nudité où la mort fauche à larges andins. Et je me dis, Bordeaux, et Nantes, et Liverpool, et New York, et San Francisco. Pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciels et ma crasse dans le scintillement des gemmes. Qui peut se vanter d'avoir mieux que moi Virginie, Tennessee, Géorgie, Alabama? Ce qui est à moi aussi. Une petite cellule dans le Jura. Une petite cellule. La neige la double de barreaux blancs. La neige est un geôlier blanc qui monte la garde devant une prison. Ce qui est à moi, c'est un homme seul, emprisonné de blanc. C'est un homme seul qui défie les cris blancs de la mort blanche. Tout seul. Tout seul ouverture. C'est un homme seul qui fascine l'épervier blanc de la mort blanche. C'est un homme seul sur la mer inféconde de sable blanc. C'est un morico vieux, dressé contre les eaux du ciel. Gonflement de nuit aux quatre coins de ce petit matin, soubresaut de mort figé, destin tenace, cri debout de terre muette, la splendeur de ce sang n'éclatera-t-elle point ? Au bout du petit matin, ce pays sans stèle, ses chemins sans mémoire, ses vents sans tablette, qu'importe, nous dirions, chanterions, hurlerions, voix pleine, voix large, tu serais notre bien, notre pointe en avant, des mots. Mais oui, des mots. Raison, je te sacre, vent du soir. Bouge de l'ordre, ton nom. Pour moi, il m'est corolle de fouet, beauté. Je t'appelle pétition de la pierre, mais ah, la rauque contrebande de mon rire. Mais oh, mon trésor de salpêtre, parce que nous vous haïssons, vous et votre raison, nous nous réclamons de la démence précoce, de la folie flambante, du cannibalisme tenace, trésor comptons. La folie qui se souvient, la folie qui voit, la folie qui hurle, la folie qui se déchaîne. Et vous savez le reste, que deux et deux font cinq. Que la forêt miaule, que l'arbre tire les marrons du feu, que le ciel se lisse là, barbe, et cetera, et cetera. Qui et quel nous sommes ? Admirable question. À force de regarder les arbres, je suis devenu un arbre, et mes longs pieds d'arbre ont tissé dans le sol de larges sacs avenins, de hautes villes d'ossements. À force de penser au Congo, je suis devenu un Congo bruissant de forêts et de fleuves, où le fouet claque comme un grand étendard, l'étendard du prophète, où l'eau fait l'Iguala, l'Iguala, où l'éclair de la colère lance sa hache verdâtre et force les sangliers de la putréfaction dans la belle orée violente des narines, douaniers, anges qui montez aux portes de l'écume, la garde des prohibitions, je déclare mes crimes et qu'il n'y a rien à dire pour ma défense. Danse, idole, relapse, moi aussi j'ai assassiné Dieu de ma paresse, de mes gestes, de mes chansons obscènes. J'ai porté des plumes de perroquet, des dépouilles de chat musqué. J'ai lassé la patience des missionnaires, insulté les bienfaiteurs de l'humanité. Défier Tyr, défier Sidon, adorer le Zambèze. L'étendue de ma perversité me confond. Mais pourquoi, vous, impénétrable, encore cacher l'horrible pont de ma laideur? Pawin, fous-moi! Fous-moi! Acharmer les serpents,
à conjurer les morts,
vont me roho,
à contraindre la pluie, à contrarier les rats de marée, vont me roho, à empêcher que ne tourne l'ombre, vont me roho. Que mes cieux, à moi, s'ouvrent. Moi, sur une route, enfant, mâchant une racine de canne à sucre, René, homme, sur une route sanglante, une corde au cou, debout, au milieu d'un cirque immense, sur mon front noir, une couronne de datura, Vumro. Qui puis-je? Il faut bien commencer. Commencer quoi? La seule chose au monde qui vaille la peine de commencer. La fin du monde. Parbleu. Tourte. Oh. Tourte. De l'effroyable automne, où pousse l'acier neuf et le béton vivace. Tourte, ô tourte, où l'air se rouille en grandes plaques d'allégresse mauvaise, où l'eau sagneuse balafre les grandes joues solaires, je vous hais. On voit encore des madrasses aux reins des femmes, des anneaux à leurs oreilles, des sourires à leurs bouches, des enfants à leurs mamelles et j'en passe. Assez de ce scandale. En vain, dans la tiédeur de votre gorge, mûrissez-vous 20 fois la même pauvre consolation que nous sommes des marmonneurs de mots. Des mots? Quand nous manions des quartiers de monde. Quand nous épousons des continents en délire. Quand nous forçons de fumantes portes. Des mots? Ah ouais, des mots, mais des mots de sang frais, des mots qui sont des rats de marée, et des érésipèles, et des paludismes, et des laves, et des feux de brousse, et des flambées de chair, et des flambées de ville. Sachez-le bien, je ne joue jamais si ce n'est à l'an 1000. Je ne joue jamais si ce n'est à la grande peur. Accommodez-vous de moi, je ne m'accommode pas de vous. Et maintenant un dernier zut. Au soleil. Il ne suffit pas à saouler ma tête trop forte. Ah, la nuit farineuse avec les pondaisons d'or des lucioles incertaines. Ah, la chevelure qui tremble tout au haut de la falaise, le vent y saute en importante cavalerie salée. Je lis bien à mon pouls que l'exotisme n'est pas trop vendre pour moi, que de sang dans ma mémoire. Dans ma mémoire sont des lagunes. Elles sont couvertes de têtes de mort. Elles ne sont pas couvertes de nénuphars. Dans ma mémoire sont des lagunes. Sur leurs rives ne sont pas étendues des palmes de femmes. Ma mémoire est entourée de sang. Ma mémoire a sa ceinture de cadavres. Les nègres sont tous les mêmes, je vous le dis. Les vices, tous les vices, c'est moi qui vous le dis. L'odeur du nègre, ça fait pousser la canne. Rappelez-vous le vieux dicton, battre un nègre, c'est le nourrir. Autour des rocking chairs, méditant la volupté des rigoises, je tourne, inapaisé pouliche, ou bien, tout simplement, comme on nous aime, obscène, gaiement. extraits doudous de jazz sur leur excès d'ennui. Je sais le traquis, le lindy hop, les claquettes. Et pour les bonnes bouches, la sourdine de nos plaintes enrobée de wawa. Attendez, tout est dans l'ordre, mon bon ange broute du néon. J'avale des baguettes, ma dignité se vautre dans des dégobillements. Parbleu, les blancs sont de grands guerriers. Hosanna pour le maître et pour le châtre nègre. Victoire, victoire, vous dis-je, les vaincus sont contents. Joyeuse puanteur et sang debout. Je refuse de me donner mes boursouflures comme d'authentiques gloires. Et je ris maintenant de mes imaginations puériles. Non, nous n'avons jamais été Amazone du roi du Dahomey, ni prince de Ghana avec 800 chameaux, ni docteurs à Tombouctou, à ce qu'il y a le grand étant roi, ni architecte de Djéné, ni Madis, ni guerrier. Nous ne sentons pas sous les selles la démangeaison de ceux qui tinrent jadis la lance. Et puisque j'ai juré de ne rien sceller de notre histoire, moi qui n'admire rien tant que le mouton broutant son ombre d'après-midi, je veux avouer que nous fûmes de tout temps d'assez piètres laveurs de vaisselle, des cireurs de chaussures sans envergure, mettons les choses au mieux, d'assez consciencieux sorciers. Et le seul indiscutable record que nous ayons battu est celui d'endurance à la chicotte. Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes. Que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la nègrerie. Que nous sommes un fumier ambulant, hideusement prometteur de canne tendre et de coton soyeux. Et l'on nous marquait au fer rouge. Et nous dormions dans nos excréments. Et l'on nous vendait sur les places. Et l'aune de drap anglais et la viande salée d'Irlande coûtaient moins cher que nous. Et ce pays était calme, tranquille, disant que l'esprit de Dieu était dans ses actes. Nous, vomissures de négriers, nous, vénerie de calebard, et quoi? Se boucher les oreilles? Nous, saoulés, à crever, de roulis, de risées, de brume humée, pardon, tourbillon partenaire, j'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquettements des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer, les abois d'une femme en gésine, des raclements d'ongles cherchant des gorges, des ricanements de fouet, des farfouillis de vermine parmi des lassitudes. Rien ne put nous insurger jamais vers quelque noble aventure désespérée, ainsi soit-il. Ainsi soit-il, je ne suis d'aucune nationalité prévue par les chancelleries. Je défie le craniomètre, homo sum, etc., et qu'il serve et trahisse et meure. Ainsi soit-il, c'était écrit dans la forme de leur bassin. Je dis que cela est bien. Ainsi, je vis pour le plus plat de mon âme, pour le plus terne de ma chair. Et cet état sans moi éclos de mon ascendance prodigieuse, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ils savent dans ces moindres recoins le pays de souffrance. Ceux qui n'ont connu de voyage que déracinement, ceux qui se sont assouplis aux agenouillements, ceux qu'on domestiqua et christianisa, ceux qu'on inocula d'abattardissement, tam-tam de main vide, tam-tam zinane de plaies sonores, tam-tam burlesque de trahison tabide, tiède petit matin de chaleur et de peurs ancestrales, par-dessus bord mes richesses pérégrines, par-dessus bord mes faussetés authentiques. Mais quelle étrange orgueille, tout soudain de l'humide. Vienne, le colibri. Vienne, l'épervier, vienne le bris de l'horizon, vienne le cynocéphale, vienne le lotus porteur du monde, vienne le dauphin, une insurrection perlière brisant la coquille de la mer, vienne les loups ou pâturent dans les orifices sauvages du corps, les innombrables fins de l'horizon. Oh, fraîcheur amicale, ô lumière source de la fraîcheur, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Gibosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte davantage la terre. Silo où se préserve et mûrit ce que la terre a de plus terre. Ma négritude n'est pas une pierre. Sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Eya pour le calcédra royal. Eya pour l'amour. Eya pour la joie. Et y a pour la douleur, au pis de larmes réincarnées. Et voici, au bout de ce petit matin, ma prière virile, que je n'entende ni les rires, ni les cris, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier. Donnez à mes mains puissance de modeler. Donnez à mon âme la trempe de l'épée. Je ne me dérobe point. Faites de ma tête une tête d'esprit. Et de moi-même, mon cœur, ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie, comme le poing à l'allongé du bras. Faites-moi... commissaire de son ressentiment. Faites-moi dépositaire de son sang. Faites de moi un homme de terminaison. Faites de moi un homme d'initiation. Faites de moi un homme de recueillement, mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement. Faites de moi l'exécuteur de ces œuvres hautes. Voici le temps de se cindre les reins comme un vaillant homme. Mais les faisant, mon cœur, préservez-moi de toute haine. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine, car pour me cantonner en cette unique race, vous savez pourtant mon amour tyrannique. Vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige bêcheur de cette unique race, que ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle, la sommée, libre enfin de produire en son intimité close la succulence des fruits. Et maintenant, pourrissent nos flocs d'ignominie. Enroule-toi, vent, autour de ma nouvelle croissance. Pose-toi sur mes doigts mesurés, je te livre ma conscience et son rythme de chair. Je te livre les feux où brindille ma faiblesse. Je te livre le Changeng. Je te livre le marais. Je te livre l'intouriste du circuit triangulaire. Dévore, vent, je te livre mes paroles abruptes. Dévore et enroule-toi. Et t'enroulant, embrasse-moi d'un plus vaste frisson. Embrasse-moi jusqu'au nous furieux. Embrasse, embrasse-nous. Mais nous ayant également mordu. jusqu'au sang de notre sang mordu embrasse. Ma pureté ne se lie qu'à ta pureté. Mais alors, embrasse, comme un chant de juste filao le soir, nos multicolores pureté. Et lis. Lis-moi sans remords, lis-moi de tes vastes bras à l'argile lumineuse. Lis ma noire vibration au nombril même du monde. Lis-moi fraternité âpre, puis m'étranglant de ton lasso d'étoiles, monte colombe. Monte, je te suis, imprimé en mon ancestrale cornée blanche. Monte, lécheur de ciel, et le grand trou noir où je voulais me noyer l'autre lune. C'est là que je veux pêcher maintenant la langue maléfique de la nuit en son immobile version. La poésie, vous voyez, c'est quelque chose de vivant, c'est pas du tout quelque chose de fragile. Et ça s'appelle du théâtre. je ne sais pas si vous étiez complètement préparé à vous prendre... trois quarts d'heure d'Aimé Césaire comme ça en frontal, mais au moins vous vous en souviendrez. Ok, merci pour votre écoute. On est en retard ?
Non.
Quelle heure ?
Une question.
Alors, je suis désolé, c'est le censeur, lui, voilà, il vient pour nous rappeler à nos dures réalités. Voilà, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que ce texte d'Aimé Césaire et cette poésie surréaliste se dit une poésie savante, mais en fait, ce qu'il va faire Aimé Césaire avec ce poème, c'est qu'il va d'abord choisir les mots qui ont la plus belle musique pour lui, mais également des mots savants, parce qu'il souhaite qu'on arrête d'essayer de comprendre avec seulement la tête et seulement l'intelligence, et que ce soit... par d'autres voies que la compréhension vienne par le corps. Tout comme vous pouvez écouter une musique, alors que vous ne savez pas lire la musique, que vous allez être ému jusqu'aux larmes en écoutant, alors que vous ne savez pas lire des notes. Il n'y a aucune raison, fondamentalement. Or, elles vous touchent. Et ce sont des notes qui sont écrites, la musique. Eh bien, la poésie d'Aimé Césaire procède de la même manière. Il y a plein de mots, plein de concepts, plein d'images que vous n'avez pas comprises, mais que je pense que vous avez saisi. Et l'important, c'est cette imprégnation de ces images, de ces sons, de ces sensations, de ces émotions. Ensuite, quand vous reprendrez le texte, vous verrez que les choses deviendront plus faciles, plus lisibles, que vous les comprendrez. Puis après, on le lit toute sa vie, si on veut. Alors, je continue de le lire, vous voyez, et d'y découvrir des choses. Mais c'est... ça aussi, la poésie d'Aimé Césaire, c'est-à-dire accepter de ne pas comprendre. D'ailleurs, pour être sûr qu'on ne comprend pas tout, il invente des mots. Donc parfois, c'est normal que vous ne compreniez pas, il en invente. mais en général, ce sont des mots savants qui signifient exactement et très précisément ce qu'il veut dire. Mais sa manière de le dire nous surprend. Et en général, lorsque l'on comprend le sens de ces mots savants, c'est encore plus vertigineux, c'est-à-dire qu'il pose encore plus de mouvement à l'intérieur de nous. Et c'est cette expérience-là que nous avons souhaité, avec Colline, avec Georges Thierry, avec Mathieu, qui est là, et avec vos professeurs, avec le lycée français, on a souhaité partager avec vous. C'est une entrée en matière. Bienvenue dans le monde de Césaire. Vous pouvez continuer. Saint-Gor, c'est pas mal non plus. Damas, c'est très très bien. Et puis, nous avons aussi Guy Tyrolien et en fait toute la poésie. La poésie, c'est quelque chose de vivant. La poésie, c'est quelque chose qui est fait pour être dit et pas seulement pour être lu. Et Césaire est quelqu'un de l'oralité. Nous sommes des peuples de l'oralité. C'est un griot, c'est notre griot, c'est un de nos griots. Et il nous embarque, il nous emporte, comme j'espère vous avoir embarqué et emporté un petit peu pendant cette lecture. Une question, parce que là, c'est la dernière ligne droite. Non, pardon. Oui, alors allez-y.
Quels sont les messages que le Mémorial Acte veut faire passer?
Ah, le projet du Mémorial Acte, construire une mémoire collective de cette histoire. Cette histoire de l'esclavage est une histoire assez peu connue, assez peu enseignée, voire assez mal enseignée, voire pas enseignée du tout. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette histoire, mais elle est importante. C'est une histoire majeure. C'est l'histoire de la construction de la modernité. Ce déracinement de ces peuples vers un autre continent pour en tirer... Le déracinement de ces peuples pour les emmener dans un autre peuple pour produire des richesses au bénéfice de quelques-uns, c'est l'histoire de ce qui s'appelle aujourd'hui la mondialisation. Vous avez entendu ce mot, la mondialisation, quelque chose de brutal où tous, vous, moi, nous sommes organisés pour consommer des biens qui enrichissent quelques-uns. L'histoire de l'esclavage, c'est exactement la même chose. C'est le monde entier, l'Europe, l'Afrique, les Amériques, l'Asie, qui sont convoqués pour permettre ce commerce et permettre cet enrichissement. Et cette histoire-là, si nous voulons comprendre le monde d'aujourd'hui, si nous voulons comprendre l'organisation du monde d'aujourd'hui, comment il existe un Nord et comment il existe un Sud, et qu'on parle d'un dialogue Nord-Sud, qu'on parle de relations noires-blancs, si vous voulez comprendre comment tout cela s'est construit, il faut revenir à cette histoire de l'esclavage et de la façon dont elle s'est, dont elle a perduré pendant 3 siècles et demi. Et cela, non pas seulement pour le savoir, mais pour pouvoir déconstruire ce que cette histoire a construit de négatif en nous et qui perdure aujourd'hui. Le projet, c'est vivre ensemble. Et si au XXIe siècle, nous voulons vivre ensemble, si nous souhaitons qu'il n'y ait pas de murs, il y a des présidents qui construisent des murs à leurs frontières pour séparer les peuples, pour nous empêcher de dialoguer, pour nous empêcher d'être humains, de pouvoir circuler sur cette planète. Si nous voulons au XXIe siècle proposer un autre modèle de société, une autre manière d'être au monde, alors il nous faut passer par la compréhension de cette histoire. C'est ce que nous essayons de faire avec le Mémorial Acte, de créer donc cette mémoire collective, partagée de cette histoire, de façon à pouvoir construire ensemble, avec toutes nos forces et avec toutes nos énergies, un avenir qui soit commun et que nous ayons choisi. Diplomatique. Donc, il faut qu'on y aille. Donc, je vous remercie vraiment parce que vous avez été concentrés et c'était
merci
super.
Beaucoup. Merci. des recherches et peut-être provoquer des vocations, je l'espère. Vous voulez retourner en cours ou on continue? Personnellement, moi, vous, je ne sais pas. J'aurais jamais pu vous parler de la poésie de la négritude comme ça. Quelle belle façon de conclure l'étude de la poésie que d'en entendre. Et quelle belle façon de partir vers le théâtre en voyant. Beaucoup de choses à dire. Alors mes élèves, ceux qui me reverront, on va avoir l'occasion de poursuivre les échanges autour de cela. J'espère que les œuvres, n'hésitez pas entre vous, n'hésitez pas à venir nous voir, à en parler à vos professeurs de français. Ils n'ont pas forcément pu être là, Madame Cloître est malade, Madame Sarre est en cours, mais allez-y, interrogez-les, partagez. C'était une magnifique synthèse sur ce qu'est la poésie, sur cette réflexion qui vous est offerte à vous qui habitez sur les rivages du golfe du Bénin, sur la nécessité de cette mémoire, en partage de part et d'autre de l'océan, de cette nécessité de construire autour de la mémoire, d'écrire drame, l'avenir de demain au-delà de ce qui souvent nous est présenté comme des barrières entre nous. L'art, ça sert à ça aussi.